Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Hein. C'est vraiment un AV, ce film.
Vous voyez, je dois rien bouleverser.
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
C'est un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel. Absolument. Tous les jours, on en a plein les yeux. Get là.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique uniquement sur Transistor. Aujourd'hui on est de jour exceptionnellement, enfin ça change rien. Mais aujourd'hui on est donc au studio de Transistor avec Nathan et Cassien. Bonjour à tous les deux, j'espère que ça va. On est toujours dans cette ambiance de fin de saison, hein, un peu d'émotion à se dire ça quand même. Tant d'émotions radiophoniques sur les ondes et dans cette fin de saison des films très très différents qui se succèdent hein, a priori. Rien de commun entre Chiancora Domani, Kung Fu Panda 4, Les Drive Away Dolls et Le Mal n'existe pas, dont on parle aujourd'hui. Et avec ce film, c'est une doudoune bleue, un projet de glamping et des bûches qui sont au programme de l'épisode du jour. Sans plus attendre, donc, penchons-nous sur Le Mal n'existe pas. Et je le dis une fois en japonais pour flex auprès de vous et du centre des langues de l'ONS, puis j'arrête parce que ça fait très vite. Normie, Akua Sonzai Shinai, le nouveau film de Ryusuke Hamaguchi qui s'était révélé au grand public français par le succès de Drive My Car il y a 3 ans déjà, et dont chaque sortie est depuis remarquée. On pense aux Contes du hasard et autres fantaisies sortis au printemps 2022, par exemple. 2 ans plus tard, au printemps 2024, le revoilà donc dans un genre bien plus différent, plus contemplatif, aussi dans une ville de campagne où se déroule paisiblement la vie cyclique d'une communauté au rythme de la biodiversité locale et notamment du ruisseau qui l'irrigue. On suit Takumi, qui vient tranquillement épuiser l'eau qu'il apporte au restaurant de ses amis, qui fait remarquer à ses mêmes amis la présence du wasabi sauvage sur le bas-côté, hein, donc il connaît la forêt, prend ça à map. Il vit seul avec sa fille et une photo de son épouse qui demeurera à ce stade de photographie pour tout le film. Je sais pas si ça se dit, mais vous avez l'idée. Voilà, un jour néanmoins a lieu dans ce village fictif de Mizubiki une réunion d'information sur un projet de glamping, comprenez la contraction de glamour et de camping, qui doit se construire dans la forêt. Les deux personnes missionnées par l'entreprise Tokyo Heat, laquelle vise à toucher les subventions d'investissement post-Covid japonais, se retrouvent bien vite embarrassées face au refus, ou du moins aux interrogations, motivées et légitimes, des habitants. Ces deux agents de com, Mayuzumi et Takahashi, vont alors tenter de faire connaissance avec Takumi, hein, qui est l'homme à tout faire, comme il se présente lui-même, mais leurs différences les mèneront inévitablement au drame. Je le dis pour le dire, parce qu'on est quand même une émission de critique sérieuse, même si beaucoup l'ont déjà dit ailleurs, etc., et c'est souvent contextualisé. C'est un film qui est né à partir de sa musique, dans la mesure où c'est Eiko Ishibashi, donc la compositrice, qui avait demandé à Hamaguchi, pour qui elle a déjà travaillé sur Drive My Car, de tourner des images pour accompagner ce qui est ensuite devenu le thème du mal n'existe pas. On pourra revenir là-dessus, je ne sais pas à quel point il faut prendre ça en compte dans nos commentaires, mais reste que l'image est extrêmement belle et montre que ce réalisateur eh ben, est vraiment un grand. Drive My Car l'avait déjà prouvé avec ce cinéma extrêmement urbain, mais ici c'est la nature qui est non pas forcément magnifiée, parce qu'on va en montrer la violence et tout, mais en tout cas magnifiquement filmée, ça c'est sûr, disons-le, et que la composition des plans est une réjouissance de tous les instants. Après, s'il s'agit de donner mon avis, je suis plus embêté. Je l'avais vu en avant-première en janvier, voilà, j'aime bien dire ça comme si j'avais vu à Cannes ou quoi, mais en fait non, j'ai vu au Festival de cinéma japonais de Lyon Kino Taiyo, voilà, bise à vous Institut Lumière, et j'avais été à la sortie très perplexe, évidemment, au sujet de la fin dont on reparlera sans trop la spoiler, j'espère, et puis en y repensant, je trouvais ça quand même intéressant, là, sur les 3 derniers mois, puis je l'ai revu ce week-end pour l'émission, et en fait c'est un peu compliqué, parce que la fin énigmatique, donc, elle se comprend mieux au deuxième visionnage. Mais c'est un film que, d'un point de vue théorique, je trouve exceptionnel. Le nombre de plans à commenter, sa construction, la complexité qu'il travaille d'un point de vue formel et philosophique est remarquable. Car on pourra revoir, mais le mal n'existe pas, c'est pas une affirmation ironique qu'il faudrait prendre à la légère. Je pense qu'elle est très sérieuse. Mais c'est un recul réflexif qu'il faut prendre le temps d'avoir et que je comprends complètement qu'on n'ait pas forcément envie de prendre. C'est-à-dire que je veux vraiment bien croire que le film reste obscur et qu'il soit peu appréciable pour tout le monde. Et moi-même, d'ailleurs, à mon deuxième visionnage, j'étais un peu, même beaucoup, tiraillé entre le plaisir, plaisir intellectuel, pour le dire ainsi, d'admirer l'intelligence du réalisateur et un peu ma frustration de spectateur de cinéma à qui on donnerait à lire une dissertation extrêmement bien pensée, mais qui n'est pas du tout venu pour ça, le spectateur. Donc on peut considérer qu'il y a peut-être même un équilibre, pas forcément mauvais, mais discutable, entre le contemplatif et le narratif, la trame étant plus ou moins bien adaptée à la longueur des plans-séquences en contre-plongée dans la forêt. Et c'est donc avec cette tension en tête que j'ai préparé l'émission. Et à nouveau, je pense que c'est un film qui est vraiment très très bon, mais qui ne peut se défendre d'une certaine forme d'hermétisme qui peut être déroutant. Nathan, il me semble que dans une émission précédente, tu avais dit que c'était un de tes films préférés, Drive My Car. Ouais. Ce nouvel opus de Hamaguchi, qu'est-ce que tu en as pensé?
Bah, écoute, là, je suis complètement d'accord avec toi. Et bon, alors, une fois n'est pas coutume, mais...
merci.
Non, mais je m'y attendais pas parce que je pensais que t'avais vraiment adoré le film et tout. Et en fait, je suis exactement dans le même état que toi. Moi, je suis un peu embarrassé et je me disais que c'était une chronique qui allait être compliquée parce que, comme toi, je suis resté assez perplexe, en fait, devant le film et pas devant sa qualité. Comme toi, je reconnais que le film est vraiment très beau et je pense que c'est un très bon film, mais j'étais perdu et je ne sais pas trop par quelle boule prendre, comment le cerner, comment l'appréhender, et je ne suis pas 100% certain de ce que j'en ai pensé. Après, moi, globalement, j'ai tendance à prendre ça pour la marque d'un bon film. Je considère souvent que quand je ne comprends pas tout le film, c'est une qualité, alors pas quand je ne comprends pas ce qu'il dit ou comment il a pu être validé ou je ne sais pas quoi, mais vraiment quand je lui reconnais des qualités, quand il m'a hypnotisé, parce que là c'est le cas, mais que j'arrive pas vraiment à savoir pourquoi. Et en fait, je pense que ce que tu en disais la semaine dernière et ce que tu en dis là est assez juste. C'est un film auquel je pense que le recul fait le plus grand bien. Et je l'ai vu seulement avant-hier, donc c'est encore assez frais. Et déjà, en deux jours, ma position a pas mal évolué. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup cherché à essayer de le cerner. Et c'est encore assez flou, mais voilà. Donc je suis, comme toi, assez tiraillé dans cet équilibre-là. Et bon, on va y revenir, mais il y a plein de trucs très différents et c'est très riche, mais je ne sais pas trop comment appréhender tout ça.
Merci, Cassien.
Alors moi, je l'ai vu hier, du coup, c'est très frais. Donc je pense que je vais prendre du recul pendant l'émission parce que ça m'a paru vraiment très étrange. Après, je pense qu'il y a vraiment un biais de ma discipline qui fait que, comme je viens de géographie, j'ai vraiment regardé le film d'abord comme un film qui parlait d'une concertation autour d'un projet et du coup, sur les différents acteurs. Du coup, la fin, sans spoiler, qui est très abrupte. J'ai juste trouvé ça très étrange parce que j'avais pas vu les signes qui allaient amener à cette fin. Du coup, j'avais juste eu l'impression d'un film qui s'arrête vraiment brusquement, avec la plupart des intrigues qui sont développées à l'intérieur et des personnages dont le développement s'arrête aussi brusquement. Donc ça a été assez étrange parce que pendant tout le début du film, j'ai passé vraiment un très bon moment et il y a juste eu la fin et après j'ai été là en mode j'ai pas compris. Et donc c'est assez bizarre comme impression parce que à la fois j'ai beaucoup apprécié la première partie du film mais juste j'ai pas compris toute la symbolique qu'il y avait autour de la fin et qui me semblait quand même assez obscure et assez repoussante en fait pour n'importe quelle personne qui serait venue pour voir un film sur justement ce qui était présenté dans mon annonce sur un projet de concertation sur la question des débats autour du développement économique et des impacts environnementaux sur les communautés locales. Et donc je suis assez partagé.
C'est un film qu'on ne sait pas trop par quel bout prendre aussi quand on le regarde pour la première fois et même pour la deuxième. Puisque, effectivement, alors j'avais pas vu la bande-annonce, mais c'est vrai qu'on s'attend d'abord à une forme d'opposition presque un peu traditionnelle entre la ville et la campagne, par exemple. Surtout que Hamaguchi... Enfin, c'est un cinéaste qui, dans Drive My Car, ça se passe intégralement en ville quasiment. Et puis, donc, je ne vais pas faire comme si j'avais vu beaucoup d'autres de ses films, hein, mais même j'en ai pas vu d'autres. J'ai lu beaucoup, c'était un cinéaste de l'urbain. Donc là, on va avoir une opposition entre la ville et la campagne, mais qui n'est pas du tout caricaturale. Et tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc. Il y a beaucoup de satire, rien que le nom de glamping, qui est ce que je trouve un mouvement beaucoup plus intelligent que de dire juste un camping. Mais donc cette satire, voilà, elle est fine, elle est en restant drôle par moments. Je trouve que la séance du débat est un des meilleurs moments du film et aussi parce que c'est... Enfin, elle est amusante par moments, sans être pour autant grotesque, dans son opposition entre les éléments de langage hyper formatés des communicants, la voix sans inflexion de la femme, et l'intelligence des habitants, mais qui n'est pas, on va dire, la ruse du paysan finot, etc. Non, non, ils ont vraiment lu le dossier, ils en perçoivent les failles logiques, et là-dessus, les personnages sont vraiment bien écrits, sans pour autant que les communicants soient du tout... diabolisé, alors même que Hamaguchi en parle comme des méchants du film, en tout cas jusqu'à la discussion en voiture qu'ils ont à un moment, et celle-ci effectivement leur donne du corps, et c'est vraiment une des meilleures scènes aussi du film à mon sens, vraiment c'est qui montre que le réalisateur est un des pros du dialogue comme pour le débat, mais je pense pas que avant cette scène ils aient été caractérisés forcément jusqu'à des méchants et jusqu'à être méchants. Et c'est là que le film a une espèce de prétention justifiée, hein, pas, enfin, je veux dire, je dis ça de façon neutre, intellectuelle, dans la mesure où il va à partir de ce refus de la binarité noir-blanc bien mal, bah, dire que le mal effectivement n'existe pas, et cette inexistence du mal comme un concept métaphysique absolu, ça fait un peu signe vers une philosophie qui est effectivement radicalement différente de la nôtre. Et je sais que ça fait un peu genre l'Asie de dire ça, la philosophie asiatique, les samouraïs de la muraille de Chine. Mais que tu prennes le confucianisme ou le taoïsme, c'est toutes les deux des pensées qui pointent, surtout la première, vers l'idée que le mal n'existe pas, ou alors dans un trouble de l'ordre du monde pour la deuxième, ce qui est le cas ici. Mais je m'avance en même temps pas trop, de peur de tomber dans des bêtises... généraliste civilisationnel. Mais on a... bref, je me suis un petit peu perdu, mais en même temps, on a à la fois la cyclicité, l'absence du mal, ou alors un mal relativement à un bien qui est surtout une force antagoniste. Et ça, c'était assez intéressant, surtout aussi de voir comment c'était manifesté visuellement par des jeux de contraste très forts. C'est-à-dire que bon, là, c'est pas yin-yang, c'est la doudoune orange et la doudoune bleue. Mais ça faisait partie des choses qu'en fait on remarque plus à au deuxième visionnage. Ce qui peut être aussi handicapant parce qu'on n'a pas forcément envie de voir un film pour le revoir immédiatement. Quoi.
Ouais, ça c'est toujours le problème avec ce genre de film. C'est un peu à double tranchant. Quoi. C'est qu'il y a effectivement ce côté, c'est tellement profond, vaste que... Effectivement, il faut chercher à voir un peu plus loin, et je pense qu'un deuxième visionnage est complètement bénéfique au film. Mais en même temps, est-ce que tu fais un film qui doit sortir au cinéma pour que tu payes deux places pour aller le voir ? Je ne suis pas fan de l'idée, tu vois. Donc c'est toujours le petit bémol. Après, je rejoins complètement ce que tu dis sur les qualités du film, et plus globalement, même je trouve qu'au niveau de la mise en scène, il y a quelque chose de très intéressant dans la manière dont sont filmés les personnages, et notamment dans les scènes d'ensemble. Il y a quelque chose de l'ordre vraiment de la choralité. Il n'y a pas de gros plan ou d'accent mis sur tel ou tel personnage. Par exemple, dans la scène de débat, il n'y a pas de gros plan sur le personnage qui a la parole, et ce, quand bien même ça serait le personnage principal, ou un personnage qui fait autorité comme le maire, ou un autre qui dit quelque chose de très important. Il y a vraiment un traitement d'ensemble que je trouve très délicat. Et cette délicatesse-là, cette subtilité, ça rejoint la première qualité que j'ai reconnue au film, qui est qu'il a vraiment eu sur moi un effet assez hypnotique par moment, dès le plan d'introduction. Bon, moi, comme toi, j'ai vu que deux films de Hamaguchi, celui-là et mon Drive My Car, qui est vraiment un de mes films préférés. Mais j'ai l'impression qu'il aime bien commencer ses films par des propositions radicales, que ce soit dans Drive My Car, où le générique de début et le titre du film apparaissaient après la première heure du film, qui faisait office de long prologue. Et ici, pareil, enfin, un peu dans une moindre mesure, il y a un très long premier plan séquence en travelling, en caméra subjective, sur les arbres qui se dessinent sur le ciel. Et c'est très joli, et globalement, tout le film est très très beau. Et d'autant plus beau, je trouve, que les paysages qui sont filmés sont pas en eux-mêmes extraordinaires. Et ça, c'est vraiment très intéressant, je trouve. Et je pense, par exemple, à pas mal de films dont on a parlé, mais par exemple Civil War, dont on parlera la semaine prochaine, et dont il faudra aussi, je pense, souligner la beauté des images, mais dans un style beaucoup plus tape à l'œil, faut le dire. On sent que, dans Civil War, je vais pas m'étendre sur Civil War, mais on sent que le film fait tout pour spectaculariser au maximum les images, et est conscient qu'elles sont impressionnantes, en mode, voilà, regarde ça, c'est moi qui l'ai fait, c'est joli. Et ici, au contraire, il y a une grande simplicité des paysages, mais qui est complètement sublimée par le cadre et la lumière, que ce soit le dernier plan, le plan sur l'étang, le plan sur lui qui coupe du bois. Je pense que c'est des images que... Bah, en les voyant dans la vraie vie, on serait pas autant impressionné. Ici, ça nous invite vraiment à nous-mêmes apprécier et apprendre à remarquer la beauté qui est contenue dans ces instants et dans cette banalité-là, en un sens, de la nature. Et ça, j'ai trouvé ça très juste et que ça faisait ça servait vraiment très très bien le propos du film. Voilà.
Alors, c'est vrai que moi je suis assez d'accord sur le fait que visuellement il y a un côté très beau. Moi j'avais juste vu aussi l'affiche et j'étais là en mode waouh, l'affiche est très belle.
Et ça,
c'est très. Ah, moi je trouve ça tape à l'œil, tu vois. Ouais. Et il y a aussi ce travail juste autour du credo, là, des cerfs que je trouve vraiment beau. Et ça, je crois que ça fonctionnait assez bien. C'était aussi le travail sur la musique, que j'avais jamais vu ailleurs, juste d'arrêter abruptement la musique en changeant de plan, qui était assez percutant et je trouve assez sympa. Et. C'est la seule chose qui je trouve qui annonçait un peu la fin, justement cette manière abrupte de terminer, qui me dit que dans tous les cas c'est volontaire et que c'est pas juste bizarrement fini. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment le film en lui-même est très beau, c'est vrai qu'il est très hypnotique tout du long, même les images de fin en fait sont très hypnotiques. C'est très beau et c'est vrai que ça mériterait un second visionnage parce que je crois qu'il y a beaucoup de symbolique que j'ai pas vu pendant tout le long parce que j'étais omnubilé par juste le propos principal du film.
Ouais, c'est vrai. Mais alors, à ce propos du propos précisément principal du film, je trouve qu'il est. Enfin, je lisais du coup. Voilà, j'ai un positif sur la le dernier numéro de positif sur la table pour faire vraiment comme si j'étais un critique. Mais donc, je lisais l'interview de Magucci dedans. Et, en fait, et aussi la critique qui en est faite. Ce qui, d'ailleurs, petite parenthèse, va un peu dans le sens de ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Moi, j'ai eu besoin en fait, de cette critique pour me dire ah ouais, en fait, c'est quand même vraiment intelligent. Parce que j'ai eu besoin qu'on m'explique hein, tout simplement mais donc bref pour en revenir là donc dans son interview Hamaguchi il s'inscrit complètement en faux des certaines interprétations qui ont été faites de son film comme d'un film environnementaliste plus encore qu'écologiste et il dit non c'est pas moi je suis personne pour dire ça et surtout pas avec ce film. Et je trouve que c'est assez juste dans la mesure où c'est d'abord un film qui va laisser une grande place à l'humain et apprécier le geste, l'artisanat dont le film va prendre le parti. Puisque l'intelligence du film, je trouve, est effectivement de ne pas passer dans un environnementalisme pur et dur, mais sans reconnaître précisément que le territoire, il est occupé par des humains. Et il va filmer les pratiques singulières des habitants. Tu parlais de propositions radicales au début du film, donc il y a effectivement le long plan séquence, mais il y a aussi, il faut attendre vraiment 10 minutes, un quart d'heure avant qu'il y ait une parole qui soit prononcée, parce qu'on voit d'abord Takumi couper du bois, puiser de l'eau dans la rivière. Et il y a presque quelque chose d'ethnographique, en fait, dans la précision dans laquelle les mouvements de Takumi sont filmés. Et le personnage lui-même, il incarne un peu cet esprit-là du film qui est dans une logique de respect par rapport à la nature dans laquelle il vit, mais qui est ni mystique ni politique, mais qui est juste en fait logique, quoi. C'est un équilibre fragile à préserver qui met genre le bois et l'eau à la base de l'écosystème. C'est d'ailleurs intéressant de voir que le kanji de l'eau est le premier du nom du village. Voilà, j'ai appris ma liste de kanji. j'avais un partiel la semaine dernière. Mais d'où toute la métaphore aussi dans le film sur l'eau qui s'écoule forcément en contrebas, comme dit le maire. D'ailleurs, deux choses là-dessus. C'est une métaphore proposée par le maire du village, qui est d'ailleurs interprété par un acteur qui est très bon, et un tout petit rôle, mais en même temps très très comique, et qui avait le rôle principal de Yamazaki dans Old Narcissus, le film dont je parlais dans une précédente chronique. Est-ce que je vous y renvoie, parce que personne n'est allé écouter cet épisode d'après les statistiques de podcast, c'est possible, mais c'est aussi parce que c'est vrai, et parce qu'il s'appelle Tamura Tajiro. Donc première chose. Et puis deuxième chose, cette idée de d'eau qui s'écoule forcément en contrebas, c'est quelque chose qui résume toute la construction du film, parce que en fait, ce que faisait remarquer la critique de Positif, c'est que c'est une suite d'événements logiques, en fait. Ce qui apparaît complètement inattendu, saugrenu presque, donc à la fin. On répète encore la même chose, hein, mais quand on le revoit, on se dit ah mais oui, ça coule de source, en fait, et non, le mal n'existe pas. C'est plus une logique, et ça pouvait pas être autrement, quoi.
Alors, moi, je suis assez d'accord sur un point, c'est que j'ai lu aussi pas mal de critiques qui disaient une magnifique fable écologiste et tout. Et je trouve pas que ce soit le gros point fort du film, franchement. Si on le prend par ce biais-là, je trouve que la fable écologiste, elle est assez peu originale et assez convenue, en vrai de vrai. Ouais. Et c'est pas du tout le point du scénario qui fait se démarquer le film, à mon avis. À propos de la fin, je pense pour le coup que c'est vraiment quelque chose qui fait se démarquer le film, parce que c'est hyper original, au contraire. Et je trouve qu'il se passe, donc, sans la divulgâcher, il se passe quelque chose de complètement inattendu, de manière très brutale. Enfin, complètement inattendu, du coup, quand on voit le film pour la première fois, moi, j'étais vraiment complètement ahuri. Et je dois dire que sur le moment, j'étais assez dubitatif. Je trouvais ça juste gratuit, je savais pas trop quoi en penser. Et en fait, en y repensant avec le recul, je trouve que sur le papier, c'est une trouvaille vraiment assez géniale, en fait. Ça donne l'impression au spectateur que le film nous trompe depuis le début, depuis son titre, depuis l'affiche, etc. Avant de nous laisser sans réponse après ce revirement final à 180 degrés. Et il faut après y revenir et y réfléchir pour essayer de lui trouver un sens. Et c'est vraiment une rupture, alors je vais être chiant, mais c'est quasiment c'est anti-aristotélicien. C'est que, enfin moi
chacun nos biais de discipline entre la géographie, le classique, ouais, et le théâtre.
Bah non, mais en fait c'est à dire que moi j'ai toujours eu un peu ce fantasme, j'ai toujours dit que j'aimerais un jour voir un film où il se passait quelque chose, il y avait une histoire, genre je sais pas, un truc très classique, même un film policier où il y a une enquête qui avance, etc. Et puis d'un coup au milieu du film, l'enquêteur se fait renverser par une voiture et c'est la fin du film. Et bon, genre, je sais pas, je trouverais ça hilarant. Et là, c'est bon, dans une moindre mesure, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un truc hyper brutal qui arrive auquel on s'attend pas du tout et c'est la fin du film. Et je trouve que c'est tellement original. Alors vraiment, moi, je pense rarement vu un truc aussi qui arrive aussi à brûle-pourpoint. Et ça donne vraiment beaucoup de son intérêt au film, je pense. Après, voilà, parce que c'est aussi un peu facile de nous décharger comme ça. Notre responsabilité critique en disant que enfin moi je dis depuis tout à l'heure que voilà je suis assez perplexe, que j'ai pas tout compris mais que c'est quand même bien, je le pense, mais voilà j'ai quand même aussi des bémols concrets et je dois dire que dans les faits, dans son exécution, cette fin là elle me laisse quand même un peu sur ma faim, et la raison, je pense que c'est la mise en scène, qui, alors que je trouve la mise en scène du film excellente et que évidemment Haraguchi est un excellent réalisateur, c'est pas le sujet, mais là je trouve que paradoxalement la mise en scène laisse pas suffisamment de place à la fin pour donner toute la mesure de son sens. Le choix de la focalisation de la caméra, le choix de l'ellipse de certaines actions au profit d'autres, tout ça fait que je trouve que le message du film est quand même un peu trop flou à mes yeux. Alors c'est bien d'avoir cherché à le rendre suggéré, mais là c'est un peu trop légèrement esquissé, je trouve. Et ça fait que la morale que j'ai personnellement cru tirer de cette espèce de conte à la fin est pas hyper claire. J'ai une certaine lecture de la fin en lien avec le titre, avec le thème principal du film, que ce soit les conséquences des actions humaines, la cohabitation avec les écosystèmes, cette théorie de ruissellement, pardon pour la connotation, mais que t'évoquais et qui est au cœur du film. Et je vais pas partager cette vision, cette lecture précise de la fin, parce que je suis absolument pas certain que ce soit la bonne, et parce que ça serait encore une fois la divulguer. Mais ce que je sais, c'est que j'ai vraiment dû aller la chercher un peu loin, et que c'est un effort que je suis prêt à fournir, et auquel je trouve qu'il est très intéressant de soumettre le spectateur, comme je le disais. Mais si je dois juger le film, l'objet en lui-même, comme ça, je trouve que c'est un peu trop, ou peut-être pas assez. Et que, ouais, j'étais un peu frustré quand même par cette fin, et pas dans le même sens que ce qu'on a pu déjà dire et qui pour le coup est à mon avis une qualité. Là j'étais vraiment un peu quand même déçu par ça.
Le gros problème de la fin, c'est qu'elle a je trouve qu'elle a un coût énorme pour l'intérêt qu'elle a. Je trouve que ça, il y a plein de, enfin je veux dire, ça donne juste une impression d'incompréhension la première fois que tu le vois, et moi je pense pas du tout avoir compris d'ailleurs. Et en plus je trouve que ça casse complètement des développements qui étaient faits avant. Et du coup, on n'a pas du tout la fin. Et je trouve, par exemple, le personnage de la fille dans les communicants, donc les deux personnes qui essayent de promouvoir le projet de glamping, il y a une fille et un homme. Et finalement, en fait, je me demande à quoi sert le personnage de la fille, parce que le personnage de l'homme va être plus développé de manière comique. Et le personnage de la fille, on va juste la développer et après, plus jamais en reparler. Et ça, je trouve que c'est un des gros points faibles du film, parce que, enfin, j'ai pas trop compris à quoi servait la fille. Et je trouvais que bah, des moments, c'était juste bonjour, je suis une femme, je suis faible. C'est-à-dire qu'elle remplit l'eau, elle n'arrive pas à porter un bidon de 5 litres, et du coup, c'est quelqu'un d'autre qui en remplit. Il y avait vraiment un côté. Et en fait, je m'attendais à ce qu'il y ait un espèce de sens. Après, c'est peut-être fait exprès aussi, justement, on s'attend à ce qu'il y ait une histoire d'amour parce que le personnage est dans le deuil de sa femme, et du coup, on s'attend à ce que. Tout simplement, il y a une histoire d'amour avec cette fille, et peut-être que c'est aussi une volonté de casser complètement ça et qu'en fait il se passe rien. Mais je trouvais qu'il y avait un peu. Ouais, ça cassait un peu le développement qu'il y avait eu, les développements qu'il y avait eu avant qui étaient intéressants. Ce qui faisait qu'il y avait un peu la fin qui était intéressante en elle-même, en tant qu'objet un peu isolé, et le reste du film qui est intéressant en lui-même, mais du coup pas fini. Et c'est très bizarre.
Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment une côté inachevé qui est assez frustrant, et je te rejoins complètement sur le personnage de la femme dont le nom m'échappe alors que j'ai dit tout à l'heure. Bref, mais bah, d'ailleurs voilà, j'ai pas retenu son nom. Mais alors, ce qui est vraiment dommage en plus, parce que ça esquisse des trucs, ça esquisse notamment une espèce de contrepoint à son homologue masculin, parce que elle dit pas grand chose, mais t'as l'impression qu'elle est celle qui comprend le plus peu à peu cet espace qu'ils veulent tenter de coloniser par leur glamping, on va dire, alors que lui il arrête pas de parler, il dit waouh, ça m'a fait bien fou de couper une bûche, ça m'a réchauffé le corps de manger des ramen, oui c'est normal, c'est chaud. Et elle dit rien, ou alors elle est très très dans la justesse. Et puis finalement, effectivement, son personnage, bon, ça reste un peu en suspens. Et c'est assez dommage parce que je trouvais ça vraiment intéressant, ce jeu de contraste là, qui est très bien rendu aussi par l'actrice qui joue super bien. D'ailleurs, pour le coup, bon point quand même pour le film, tout le monde joue très bien. Surtout moi, Takumi, il n'est pas acteur du tout au départ, c'était je crois qu'il était décorateur sur le set, et il joue vraiment très bien, hein, pour quelqu'un qui n'est pas du tout acteur au départ. Il sert vraiment bien, genre la caractérisation, son perso, brisé à l'intérieur, parce que Cassien, tu le disais, il est en deuil de sa femme, on le comprend en tout cas, parce qu'il ne boit plus, sa femme on ne voit pas, etc. Il est, voilà, donc sa caractérisation un peu à la fois saoulé tout le temps et en même temps complètement tête en l'air et porteur de savoir sur la forêt, plus big up à la fille qui joue la fille, justement la fille de Takumi, Hana, qui s'appelle Ryo Nishikawa, qui est vraiment douée et émouvante. Et à ce titre, vu qu'on parlait de la fin, moi ça me met quand même, enfin elle me met vraiment très très mal, hein. Les enfants qui disparaissent, les peluches abandonnées, moi je pleure vraiment. Non mais je veux dire, de toute façon depuis le début du film on n'est jamais complètement serein pour elle. Y a des images fortes comme ce ballon, hein, qui fait une grosse tache rouge sur un parking à un moment de goudron, qui m'a marqué, voilà. Mais j'ai trouvé ça aussi vraiment vraiment intéressant d'être encore un truc à rajouter. Et puis, ouais, Nathan, tu dis souvent de films qui sont bien, que ce sont des leçons de cinéma. Et je trouve que sur la question du regard dans ce film, c'est assez juste. Parce qu'on parlait de la nature, etc., de où est-ce que ça se situe. Et il y a vraiment le côté, ouais, la caméra est placée dans la nature. Je veux dire, elle va adopter le point de vue du wasabi à un moment. Ce qui n'était pas une phrase que je pensais dire un jour, mais qui dit aussi en quoi c'est un peu novateur quand même. Puis elle est peut-être ce cerf aussi, dont on parle beaucoup sans le voir pendant un long moment. Et ça nous invite en fait, voilà, à être alerte sur ce qui se passe dans les regards des persos eux-mêmes, et notamment celui des citadins. Ben voilà ce que je disais, entre le regard de la fille, le regard de l'homme et tout. Si je prends un exemple, le rapport de Takahashi à la nature, il est presque un rapport exotique en fait, de surprise. À un moment, quand il passe devant une carcasse de faon décédé et en putréfaction, il la montre du doigt à sa collègue, genre il est tout surpris, quoi. Mais c'est tout, c'est un à côté sur son chemin, alors que plus tôt dans le film, Takumi l'avait aussi montré à sa fille, mais la caméra était placée différemment, c'était un légère contre-plongée du point de vue du faon mort, et ça montrait en fait leur émerveillement. Et ça fait partie, enfin voilà, là c'était une espèce de surprise assez banale contre l'étonnement, l'émerveillement, même devant ce qui peut être répugnant dans la nature, et ça fait partie des diverses manifestations de violence symbolique des urbains qui croient agir pour la bonne cause en faisant le glamping, comme le PDG le répète gaiement, mais c'est une cause qui est celle des citadins, quoi. Voilà. En tout cas, pour savoir, vous, si oui ou non le mal existe, bah, rendez-vous en salle pour ce film de Ryusuke Hamaguchi sorti le 10 avril, au moins une fois, sinon deux, si vous avez du temps et de l'argent. Ça dure 1h46, au fait, j'ai oublié de le dire. Avant de conclure l'émission, nous vous donnerons nos conseils. On commence avec toi, Nathan.
Alors moi, je voulais... déjà, on en a parlé et tu l'as dit, c'est un de mes films préférés, donc je vais vous reconseiller, parce que c'est quand même assez à propos, Drive My Car, qui est vraiment un film incroyable. Moi, qui m'a... C'est une leçon de cinéma. Non, mais qui m'a... À chaque fois que je le vois, je pleure pendant au moins... 4 heures. Voilà, et j'avais un deuxième conseil parce que on approche de la dernière émission de la saison, j'aurais pas l'occasion de le conseiller ou d'en faire une chronique plus tard. Donc je voulais conseiller un film que j'ai vu en avant-première il y a déjà quelques mois qui s'appelle Les Trois Fantastiques, qui est un film de Michael Dichter avec notamment Emmanuel Berco et Raphaël Quenard, mais aussi dans les rôles principaux, encore lui, toujours lui, mais aussi et surtout dans les trois rôles principaux, il y a trois enfants qui jouent extrêmement bien. Et voilà, bah, c'est un film sur trois amis qui sont inséparables, et au début d'un été, il y a le frère d'un d'eux, donc Raphaël Quenard, qui sort de prison, et ça fout le bordel, en gros. Et c'est un vraiment très chouette film, il sort le 15 mai, donc je vous encourage à aller le voir, pour une fois que je vois un film en avant-première, autant que je puisse le vendre. Donc voilà, c'est vraiment chouette, il y a un côté... Stand By Me, même La Guerre des Boutons, enfin il y a plein d'influences avec des films sur l'enfance, et c'est un très beau film sur l'enfance, donc voilà, je vous encourage chaleureusement à aller le voir.
Merci beaucoup Cassien, ton conseil.
Moi je vais conseiller un film d'animation, c'est La Tortue Rouge de Michael, je crois qu'il s'appelle, du Doc DeVitt. Donc c'est un film franco-belge je crois, mais qui a été financé par le studio Ghibli. Et c'est un film que je trouve très bien, parce qu'il y a le côté très contemplatif qu'on peut retrouver dans Le Mal n'existe pas, et qui peut être assez agréable à regarder. C'est un film muet, mais qui est vraiment très beau, et qui raconte l'histoire d'un homme qui s'échoue sur une plage, et après ça part en conte un peu philosophique, sur la nature, sur plein de questions, et c'est un film juste qui est purement très beau à regarder, et qui est un petit bonbon.
Merci beaucoup. Enfin, moi, mon conseil, pas très original, c'est... le numéro de Positif que j'ai donc acheté pour l'occasion, parce que non seulement vous trouverez l'explication du film, en tout cas une explication possible, plus une interview aussi avec Nicolas Philibert, celui qui fait qui finit son triptyque psychiatrique avec La Machine à écrire et autres sources de tracas qui sort qui est sorti, et puis un gros dossier sur Filmer la salle de classe qui est extrêmement intéressant. J'avais parlé de La Salle des Profs dans cette émission il n'y a pas si longtemps. Là, donc, il y a une réflexion qui est menée avec le réalisateur. Il y a divers trucs. Il y avait aussi un article très intéressant sur les comédies de salle de classe. Donc, si vous voulez lire quelqu'un qui parle très très sérieusement des sous-doués et de PROFS, et ben voilà, c'est l'occasion. Et puis... un conseil peut-être un peu moins paresseux, en rapport avec le film, il y avait de nombreux parallèles, j'ai trouvé, donc avec un film de Kyoshi Kurosawa qui s'appelle Charisma, qui est sorti au début des années 2000, où un inspecteur de police de la ville, je sais plus laquelle, mais donc de la ville, démissionnait et se retrouvait dans une forêt menaçante, habitée par des humains complètement inquiétants et par une force spirituelle maléfique qui venait cette fois-ci d'un arbre en particulier. Et le film aussi posait cette question de l'existence ou non du mal, ou de sa nécessaire existence aussi, surtout de l'équilibre. Alors c'est pas un film que j'aime particulièrement, donc je le recommande aussi parce qu'il est intéressant et parce que ça peut être un bon objet de comparaison, notamment. Enfin, sur certains points, et en même temps, parce qu'il diffère du mal n'existe pas, parce que dans le film de Hamaguchi, c'est plus quelque chose de diffus, une violence intrinsèque, et un peu plus scientifique. Bref, tous ces conseils, en tout cas, vous pouvez les retrouver sur la page du Comptoir du Cinéma sur transistor.fr. Merci à tous les deux, Nathan et Cassien, pour ce nouveau numéro du Comptoir du Cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. Pour la dernière fois de cette année, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Civil War d'Alex Garland. Ce sera le final de la saison et comme d'habitude, ce sera disponible sur transistor.fr, sur toutes vos plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien, partagez-nous et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, même pour la semaine prochaine, il y a encore de la place. Donc surtout, n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée, bonnes vacances à toutes et à tous et à bientôt. Vive le cinéma et vive le cinéma.